Tout un monde,
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir, c'est tout un monde de calme et de verdure que je vous propose à cette heure de la belle saison où prolifèrent les festivals de jardin. Ces très créatifs rendez-vous de végétaux, souvent venus d'ailleurs. Nous sommes avec trois fous de jardin, Sylvie Depont, Alain Baraton et Gilles Clément au téléphone. Le jardin, étymologiquement, ça veut dire enclos. Et nos jardins, comme nos maisons, sont nos miroirs. Aujourd'hui, ils sont le reflet de nos sociétés globalisées. L'expression « jardin planétaire » est de Gilles Clément qui est avec nous. Ils expriment ce monde ouvert à tous les vents, ce monde qui accueille des végétaux et des esthétiques du monde entier pour le meilleur et peut-être parfois pour le pire. Alors, trois passionnés du jardin avec nous. Alain Baraton, bonjour.
Bonjour.
On est heureux de vous avoir sur France Culture. Vous êtes plus souvent chez nos confrères de France Inter.
Je suis très heureux d'être avec vous.
Vous êtes le jardinier de Versailles et du Petit Trianon.
Et du domaine de Marly.
Et du domaine, donc du Grand Trianon.
Du Grand Trianon, du Petit Trianon et du domaine de Marly. Un endroit extraordinaire planté d'arbres qui, pour la majeure partie, viennent de loin.
Viennent d'où alors, ben,
ils viennent d'Amérique, ils viennent d'Asie. Je pense à ce sophora du Japon exceptionnel, introduit sous Louis XV et planté sous les fenêtres du Petit Trianon. Je pourrais parler du merveilleux cèdre de Monsieur de Jussieu qui lui aussi est planté non loin de la demeure royale. Et puis toutes ces plantes qui hier encore ne vivaient qu'à l'étranger et qui aujourd'hui sont devenues habituelles sous nos climats. Je pense au marronnier, le bon vieux marronnier commun qui n'est pas non plus originaire.
Il n'est pas de chez nous ?
Pas du tout. Il a été introduit par le dénommé François Bachelier en 1613, je crois. Il s'est parfaitement bien acclimaté et on en trouve absolument partout. Marronnier qui aujourd'hui est victime d'un petit insecte que l'on appelle la mineuse. Et si je vous dis ça, c'est amusant parce que cette mineuse qui crée des dégâts vit dans cet arbre hôte, là où le pays, l'arbre est né, à savoir la Grèce et l'Albanie. Et le petit papillon a mis 3 siècles avant de retrouver son arbre en France. Ça y est, il est arrivé. Avec les dégâts que l'on sait.
Et voilà, alors il y aura quelques effets pervers, on va en parler. Sylvie Depont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes commissaire générale d'une magnifique exposition que peut voir en ce moment à l'Institut du Monde Arabe, et ce jusqu'au 25 septembre. Elle s'appelle Jardin d'Orient. Donc il y a la versant exposition qui est absolument magnifique, et puis il y a le versant jardin sur lequel moi j'ai un peu plus de réserve, je dois dire.
D'abord c'est un tout, il n'y a pas deux versants, il y a vraiment une exposition dehors-dedans, selon la tradition justement des jardins orientaux et qui transposer l'intérieur des bâtiments vers l'extérieur. Et c'est une exposition qui effectivement s'interroge sur pourquoi nous sommes si fascinés par ces jardins du monde oriental ce qu'ils peuvent encore nous apprendre aujourd'hui en technicité, en haute connaissance botanique, technologie hydraulique, etc. Dans notre monde confronté aux grandes métropoles contemporaines. Et pourquoi nous fascine-t-il encore ? Qu'ont-ils à nous apporter ? Ce sont les grandes interrogations qu'on se pose, effectivement.
Alors vous avez une formation en histoire de l'art et ça me permet de vous poser la question, pourquoi pendant très longtemps, dans le monde de la culture, avec un grand C, l'architecture a été tellement prisée alors que les jardins ont été relativement l'objet d'une ignorance, voire d'un mépris ?
Je pense que c'est en train de bouger énormément.
Oui, ça bouge.
Ça bouge beaucoup.
Mais historiquement, pourquoi ?
Je ne saurais pas bien dire. Je pense que l'histoire de l'art s'est intéressée plus tardivement, effectivement, au monde des jardins. Mais je me retournerai vers mon ami Alain Baraton. Je pense que le bâti, ça a été un des grands combats des années 80.
C'est noble, le bâti.
C'est noble, c'est le bâti. Mais aujourd'hui, et d'ailleurs, j'essaie justement de faire bouger un peu les frontières et que, notamment, les architectes en chef des monuments historiques et autres commencent vraiment à prendre en compte l'intérieur et l'extérieur de façon globale. C'est un tout, le jardin, il est en fonction du bâtiment qu'il surplombe et c'est d'ailleurs ce qu'on a retransposé dans le jardin de Lima avec ce jardin qui a été aménagé en fonction du bâtiment de Jean Nouvel. Alors c'est de l'architecture contemporaine, c'est un jardin contemporain volontairement, mais c'est bien ça, c'est-à-dire que le jardin et le bâtiment soient considérés dans une même approche et une même écriture.
Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que les activités jardinières, Alain Baraton, sont des activités humble, on met la main dans la terre et donc au départ, ce n'était pas très noble d'être jardinier.
Et pourtant, Voltaire disait jardinier le plus noble des métiers.
Absolument.
Je voudrais revenir sur la guerre entre l'architecture et le jardin. Oui. Lorsque Louis XIV construit Versailles, exactement, un monument extraordinaire, il y a déjà une guerre entre le jardinier et l'architecte. Et André Lenôtre, qui ne manque pas d'humour, n'hésite pas en présence du roi à qualifier Mansart de maçon. Vous imaginez un petit peu, cet homme qui est jardinier ose qualifier ainsi un homme de là, il est peut-être aussi à l'origine de cette guerre entre l'architecture et le jardin.
Qui existe encore.
Cette guerre entre l'architecture et le jardin ne semble pas avoir existé en Orient, puisque nous allons maintenant vers l'Orient avec cette belle musique andalouse du Moyen-Orient. Il semblerait que le jardin oriental ait accueilli la pierre, comme la pierre accueillait le végétal, puisque le jardin oriental, Sylvie Depont, on le voit dans cette magnifique exposition qui est à l'Institut du Monde Arabe, fait partie de la maison, puisqu'il est, contrairement à chez nous, il est au centre de la maison, il est au cœur de la vie des gens.
Alors, il est au cœur de la vie, c'est-à-dire que de toute façon, là, on met en scène dans l'exposition, notamment le lien entre le jardin et la ville. Et donc, la ville arabe, effectivement, est composée d'un tissu extrêmement dense, dont chaque élément, chaque maison, reçoit la lumière depuis le ciel, directement sur le patio qui se trouve à l'intérieur. Donc, effectivement, le bâti et le jardin sont étroitement liés. C'est, en tout cas, ce qu'on a cherché à retrouver, c'est-à-dire ce lien entre la civilisation urbaine et le jardin depuis la plus haute antiquité, et de voir de quelle façon ils ont été étroitement liés dès la naissance et sont aujourd'hui toujours aussi étroitement liés et peuvent justement, parce qu'ils ont survécu à tous ces siècles d'évolution urbaine, etc., nous redonner comme leçon d'harmonie et d'équilibre entre le bâti et le non-bâti.
Alors, il y a aussi une chose qui est très perceptible dans cette exposition, c'est que la fascination pour le jardin en Orient procède probablement d'un manque, d'une aspiration à la verdure, puisque la naissance du jardin est historiquement dans des pays plutôt désertiques.
Alors, c'est à la fois, alors, manque d'aspiration, je pense pas, je pense que c'est effectivement, ils sont nés dans des pays de contraste. C'est-à-dire qu'on est toujours très fasciné par le fait que c'est dans des territoires semi-arides ou arides que ces jardins accueillent une végétation absolument luxuriante et que donc ça a imposé à l'homme de trouver des technicités extrêmement complexes pour arriver à amener l'eau, source toute vie, de façon abondante, alors qu'elle ne l'est pas spontanément, et d'y faire pousser des végétaux d'origine extrêmement diverse d'ailleurs, puisque ce sont à la fois des lieux de contraste, des lieux de généreux et des lieux de grand brassage. C'est-à-dire que les plantes qu'on y trouve viennent de territoires parfois extrêmement éloignés et nous ont inspiré à la fois dans l'écriture du jardin, je parle là de notre monde occidental, dans l'écriture du jardin, dans la technologie à la fois hydraulique, botanique, etc. Et nous ont amené des variétés de plantes absolument extraordinaires sur lesquelles aujourd'hui nous vivons dans nos jardins.
Alors, hommage aussi au génie hydraulique dans cette absolument. Et ça, c'est très important parce qu'on y découvre que la vis d'Archimède qui a servi en Hollande au 16e au 17e siècle, comme le nom l'indique, elle est antique, elle permettait donc de faire remonter l'eau dans les canaux, et on retrouve d'ailleurs un génie hydraulique aussi dans le monde précolombien. Donc l'humanité a déployé des trésors d'ingéniosité à ce sujet.
Il n'y a pas de vie sans eau. Bon, donc le jardin en fait la preuve tous les jours. Dans ces territoires qui sont des territoires effectivement très rudes, comme on le disait tout à l'heure, l'eau est encore plus rare. Et donc l'ingéniosité des hommes pour arriver à l'amener jusqu'à la ville, jusqu'au jardin, à travers un circuit d'ailleurs, à travers la ville extrêmement complexe où l'eau est utilisée avec parcimonie, recyclée, va jusqu'au jardin après avoir été utilisée à multiples fonctions à l'intérieur de la ville. Ça, c'est effectivement une spécificité des jardins orientaux. Cette eau est utilisée parcimonieusement, mais avec une très grande générosité, une très grande abondance. Les systèmes, les fontaines, les canaux qui structurent le jardin et qui amènent à la fois la fraîcheur, le son de l'eau qui coule et qui structure le jardin de façon extrêmement rigoureuse, c'est une des grandes spécificités effectivement du jardin oriental qui a inspiré, je pense, nos jardins occidentaux.
Et qui également a des connotations mystiques, puisque rappelons que paradis.
Le paradis, c'est le jardin, effectivement, paradisium. C'est aussi le Coran qui explique effectivement que le jardin est que le paradis, pardon, était arrosé par quatre fleuves qui sont symboliquement le croisement des deux canaux à l'intérieur du jardin qu'on trouve dans la forme traditionnelle du jardin oriental, le charbagh inspiré de la Perse.
Le paradis étant le moment magique passé au jardin aussi. Alors là, on va aller au-delà du Moyen-Orient, on va aller même jusqu'en Extrême-Orient, le jardin japonais, où se déroule la cérémonie du thé, c'est-à-dire le jardin est le lieu de rencontre, cette rencontre fugace entre un groupe d'humains qui savent que la vie passe.
Le jardin oriental nous apprend qu'effectivement, le paradis est au bout du chemin, mais il nous apprend aussi que le paradis est sur terre, et qu'il faut vivre dans son jardin de façon harmonieuse avec la nature, mais surtout y trouver tous les plaisirs possibles, que ce soit les cinq sens, ils sont célébrés de façon extrêmement sur toutes les formes. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a eu avant les jardins orientaux, là je me tourne vers Alain Baraton, puis on va bientôt donner la parole à Gilles Clément, mais à vous aussi je pose la question, Sylvie Depont, est-ce qu'il y avait des jardins avant ces jardins, donc l'âge d'or a l'air d'être l'époque andalouse, est-ce qu'il y avait des jardins par exemple dans la Grèce antique, dans la Rome antique, on ne nous parle jamais de ça, ils ressemblaient à quoi ces jardins?
Alors donc, je reprends la parole.
Oui, allez-y.
Alors, de toute façon, les jardins existaient. La première grande fascination du jardin, c'est le jardin suspendu de Babylone, qui était effectivement
mythique. Mais il paraît qu'on n'en a pas retrouvé les vestiges.
Alors, ils existaient sans doute, puisque les récits sont extrêmement nombreux sur ces jardins et sur le fait qu'ils étaient...
Oui, mais si c'est comme la tour de Babel, on
n'a
pas retrouvé non plus.
On a retrouvé des bas-reliefs à Ninive et autres qui montrent effectivement que les arbres étaient plantés dans des espaces urbains ou en tout cas construits de façon extrêmement habile entre végétaux et bâtis. Ce qui est certain, c'est que dès qu'il y a eu installations urbaines et donc dans le croissant fertile, puisque c'est là où on voit les premières installations urbaines importantes, il y a eu forcément végétation, sédentarisation, végétation pour nourrir à la fois les hommes et les animaux, et il y a eu forcément jardin. Alors c'est le jardin verger, c'est le jardin nourricier, c'est le jardin d'agrément, c'est là où on se pose un peu plus de questions. À quel moment le jardin devient véritablement un jardin d'agrément? Est-ce qu'il avait les multiples fonctions? C'est vrai que les jardins d'Orient possèdent plusieurs noms selon la fonction qu'ils remplissent. Je pense que les deux se retrouvaient de façon extrêmement harmonieuse.
Et c'est peut-être le drame pour le jardin à la française. Le jardin à la française est inspiré directement du jardin italien qui lui-même trouve sa naissance dans le jardin d'Orient. Mais le jardin à la française, qui est un jardin d'agrément, est aussi et surtout un jardin de pouvoir. Ce jardin est conçu pour que le maître des lieux puisse montrer sa fortune, étaler sa puissance, tant et si bien que lorsque Louis XIV va mourir en 1715, eh bien ce jardin qui symbolise l'autorité du roi, la dictature, j'allais dire royale, va presque mourir à la mort de Louis XIV. On ne voudra pas reconstruire dans les années qui suivent des jardins qui symbolisent trop la tyrannie. Et juste, j'aime bien de temps en temps rappeler que le jardin à la française n'a pas toujours été apprécié. Au XVIIIe siècle, il y a un homme, le créateur des jardins d'Hermenonville, le marquis de Gérardin, qui a cette phrase terrible à propos des jardins de Versailles et d'André Le Nôtre. Il dit, je le cite, « Les jardins de Monsieur Le Nôtre sont si tristes que l'allée la plus fréquentée est celle qui conduit à la sortie. » Alors, c'est un peu abusif, j'en conviens, mais il est vrai que contrairement aux jardins d'Orient, qui sont des jardins de réflexion, de méditation, de rencontre, d'échange et de vie, d'ailleurs, quand on veut offrir un jardin dans ces pays, on fabrique un tapis qui représente, car le tapis persan représente un jardin, eh bien, oui. À Versailles, ce jardin de pouvoir, malheureusement, va un petit peu être la cause, justement, du désintérêt des citoyens et pour longtemps, du jardin en général.
On voit d'ailleurs dans l'exposition à l'Institut du Monde Arabe ces fameux tapis jardins, et on s'aperçoit qu'ils respectent ce qu'on trouve partout en Asie, c'est-à-dire les quatre directions. Alors, comme on voit dans les roses, les fameuses gules des tapis, il y a toujours ce modèle des quatre directions.
Il y a toujours ce modèle qu'on dit inspiré effectivement du jardin de Pasargade, mais qui est un modèle qui s'est transposé, qui a été repris beaucoup aussi au XXe siècle à travers justement... Ayant transité par le jardin arabo-andalou, par Forestier, qui nous l'a réinterprété et qui a inspiré beaucoup tous les paysagistes du XXe siècle. Donc c'est effectivement un schéma très traditionnel. Mais le jardin qui n'est pas forcément obligatoirement selon ce format. Ce qui est certain, c'est que le jardin arabo-andalou, arabo-musulman, le jardin oriental sous toutes ses formes, effectivement est structuré par l'eau, ça c'est certain, et que le rôle de l'eau et que l'ingénierie hydraulique qui permet de planter dans des espaces pas toujours évidents impose une certaine rigueur afin que l'eau puisse couler et irriguer l'ensemble du territoire.
France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Fraissé.
Aujourd'hui, nos jardins planétaires, c'est la belle saison, c'est le moment d'en parler. Alors, on a, à travers vos témoignages, bien compris que les jardins sont poreux à toutes les influences, mais on a le sentiment que tout ça c'est énormément accéléré depuis que tous les pays sont en contact avec tous les pays, les plans de voyage de plus en plus, et on aboutit aujourd'hui dans nos petits jardins à quelque chose qui est planétaire. Alors le jardin planétaire, c'est une expression que j'ai empruntée à Gilles Clément qui est avec nous au bout du fil. Bonjour Gilles Clément.
Bonjour.
Alors c'est une expression qui correspond exactement à ces jardins, on va dire, globalisés, mondialisés, que d'ailleurs vous pratiquez beaucoup, puisque dans votre conception de paysagiste, je rappelle que vous avez créé des parcs absolument mémorables, et je pense à celui notamment du Quai Branly, parce qu'au Quai Branly, vous avez utilisé des plantes venues d'ailleurs, et pendant un certain temps, ce jardin n'était pas beau, parce qu'il a fallu qu'il se mette en place, et ça prouve aussi que le jardinier travaille avec le temps et qu'il faut lui faire confiance. Alors le jardin planétaire, ça s'accélère en ce moment.
Alors, le jardin planétaire, j'en redonne la définition, il s'agit d'un constat. C'est-à-dire que c'est la planète regardée comme un jardin pour trois raisons. La première, c'est la couverture anthropique. Le jardinier connaît la, il est partout sur toute la surface de son jardin. Et les humains sont partout aujourd'hui sur la planète. La deuxième raison, c'est le brassage planétaire. Effectivement, l'histoire des jardins fait qu'on a apporté des plantes venues d'à côté puis de plus en plus loin pour les mettre dans l'enclos, dans le jardin. Et ça, c'est vraiment l'origine du brassage planétaire, c'est l'origine du jardin, c'est-à-dire le moment de la sédentarisation de toutes les populations sur la planète. Et aujourd'hui, la planète, elle est soumise à un brassage planétaire qui vient des échappées du jardin dans le monde entier. Enfin, la troisième raison, c'est la définition du mot. Le jardin, qui veut dire enclos ou paradis, et paradis, si ça peut se discuter, enclos, non. C'est en effet un endroit fermé. La vie est limitée aux limites de la biosphère. Alors voilà ce que ça signifie, jardin planétaire. Et tous les jardins, depuis qu'ils existent, sont en référence avec quelque chose qui est d'abord proche, mais de plus en plus lointain. Et ça, c'est très ancien, puisque 2000 ans avant même notre ère, sur les murs du temple d'Arebarai, la reine Hatshepsut faisait venir des plantes d'ailleurs, et on en voit graver les traces, c'est tout à fait l'histoire, enfin raconter l'histoire, c'est tout à fait intéressant, et ça montre comment les hommes se sont comportés vis-à-vis de cette nature et de ces convoitises. Il y avait des marchés aussi depuis toujours.
Alors, vis-à-vis de ces constants va-et-vient entre le végétal d'une ère culturelle à une autre, comment réfléchit un paysagiste aujourd'hui comme vous, puisque les jardins que vous concevez sont des jardins métissés en quelque sorte?
Mais ils le sont toujours, même si on ne cherche pas ce métissage particulièrement. Ce qui est cherché, c'est de le faire vivre au mieux et sans dépense d'énergie contraire, c'est-à-dire sans frais imbéciles, inutiles, sans dépense d'eau, sans arrosage automatique, sans artifice et coûts et pollution surtout, sans pollution. Donc on est plutôt dans un mode de gestion précautionneux, écologique, et qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on faisait auparavant. Donc on va aller chercher des séries floristiques qui sont capables de vivre dans l'endroit dans lequel on se trouve, et dans le climat dans lequel on se trouve. Or, il y a des séries floristiques, disons, originelles, on les appelle les indigènes, qu'on peut utiliser, mais il y en a d'autres qui sont tout à fait compatibles avec les climats et les sols que l'on a là, et à ce moment-là, on peut les utiliser aussi dès lors qu'on ne met pas l'environnement, si on peut dire, en danger. Moi, j'y crois pas trop, mais enfin, c'est-à-dire le danger dont il est question, c'est celui de ce qu'on appelle l'envahissement des plantes. On dit invasive, abusivement. Il s'agit de plantes qui aiment bien se développer là où on est. Elles sont contentes de vivre, c'est tout. Et on en a peur de ça. Et on dit ça, on en a peur parce qu'elles viennent d'ailleurs en général et parce qu'elles ne sont pas soi-disant originaires de là. Mais enfin, ça, c'est une sorte de mythe total. En réalité, les flores que l'on a indigènes ici, elles ne le sont que depuis très peu. Il y a quelques milliers d'années, il n'y en avait pas. Il y avait autre chose, des choses qui ont disparu, qui sont migrées ailleurs ou qui sont fossilisées. Donc, de quoi parle-t-on quand on dit indigène? Qui est indigène, vous voyez?
Mais parlons tout de même alors de ces plantes prétendument envahissantes, parce que quand on voyage, on s'aperçoit qu'on vous parle de ça un peu partout dans le monde. Je me tourne aussi vers Alain Baraton, que vous connaissez bien. Je pense à la jacinthe bleue, par exemple, qui a envahi les bayous de Louisiane. Je pense aux bambous, qui sont le cauchemar. Alors ici, en France, de nombre de jardiniers qui se sont laissés tenter et qui n'arrivent plus à s'en défaire. Je pense aux herbes de la pampa qu'on a tous plantées il y a 20 ou 30 ans et maintenant on nous dit « Ah non, faut surtout pas parce que ça envahit tout ». Alors, quelle est la réalité de cet envahissement? Est-il fantasmatique? Alors, je pose la question à Alain Baraton, puis vous allez répondre aussi.
Oh, je vais reprendre un titre d'un livre de Gilles Clément, « L'éloge des vagabondes ». J'adore ce titre. Et en fait, Gilles Clément fait l'éloge justement de toutes ces plantes qui viennent et qui ne sont pas, je pense, alors je parle sous son contrôle, envahissantes, mais qui ont su s'acclimater. Je n'ai jamais vu, moi, depuis que je suis né, de paysages totalement transformés de par l'arrivée d'un végétal. La nature, je crois, se suffit à elle-même et souvent arrive à s'équilibrer. Alors, il peut y avoir, bien évidemment, quelques exceptions, mais en général, les bambous, il en existe tellement de variétés que tous ne sont pas envahissants. Si la jacinthe bleue fait quelques dégâts, en particulier sur des lacs d'Afrique, c'est dans des situations bien précises. Non, le danger aujourd'hui des végétaux qui vient d'ailleurs, ce sont ces végétaux que l'on va arracher abusivement, je pense, aux oliviers d'Espagne, et qui, pour satisfaire des buts lucratifs, seront extraits de leur terre, quel que soit leur âge, pour être plantés au nord de la loi, ce qui est à mes yeux une ineptie.
Éloge de la tolérance, Gilles Clément, donc vous êtes du même avis qu'Alain Baraton, pas de fantasme sur l'envahissement.
C'est-à-dire que l'envahissement, il est craint parce que il est évoqué quelquefois à juste titre, parce qu'il va y avoir une ou deux plantes qui vont souffrir et peut-être disparaître sous la pression de ces plantes venues de loin, mais c'est tout à fait exceptionnel, vraiment tout à fait exceptionnel, et si on se focalise là-dessus, c'est parce que c'est facile, c'est démonstratif et c'est assez par ailleurs suspect, mais bon, la vraie cause de la disparition des espèces, c'est deux choses très importantes, la suppression des habitats par l'imperméabilisation, la construction, tout ce qu'on peut faire qui enlève la place aux plantes, et puis bien sûr la pollution, et sur la pollution chimique qui alors là est radicale.
Donc désignons les vrais coupables.
Oui, c'est ça. Désignons plutôt les vrais coupables. Et par ailleurs, la planète, avant même que nous ne soyons, nous, humains, présents, était soumise à un brassage planétaire beaucoup plus lent, c'est sûr, par les mouvements naturels des courants marins. Là, on ne connaît pas du tout l'origine géographique de la noix de coco, du cocotier, par le vent, par les oiseaux. Tous les animaux transportent des choses. Vous tondez un mouton, vous le mettez par terre, c'est un jardin, parce qu'il y a plein de graines. Et les moutons, ça voyage. Enfin, ça voyageait. Mais quand on les a transposés et mis en Nouvelle-Zélande, forcément qu'on a vu arriver des plantes d'Europe auxquelles on ne s'attendait pas. Mais c'est logique.
Question de rythme, donc.
Oui, oui.
Pas de fantasme donc, nos jardins ne sont pas envahis par des plantes venues d'ailleurs. Alain Baraton, donc vous êtes sur la même ligne que Gilles Clément. Alors on va avec vous regarder ce qui peut se faire pour prendre contact, regarder, déguster, respirer des plantes venues d'ailleurs. Il y a une manifestation dont vous êtes le parrain, Alain Baraton, qui démarre aujourd'hui même. Parole de jardinier, et demain dimanche 29 mai, vous la lancez officiellement. Il y aura possibilité de regarder beaucoup de plantes venues de partout, puisque oui, c'est le thème de cette année, c'est dans toutes les Yvelines.
C'est dans toutes les Yvelines, l'occasion de découvrir des jardins qui parfois sont fermés au public, de rencontrer des passionnés qui ont su justement s'adapter à toutes ces plantes venues d'ailleurs, mais l'occasion de rappeler que seraient nos jardins d'ailleurs sans les plantes venues d'ailleurs. Il n'y aurait pas de pétunia, il n'y aurait pas de géranium, il n'y aurait pas quantité de végétaux dans le potager, cela est pire. Donc l'occasion effectivement pour Parole de Jardinier, pour ces jardins voyageurs, de découvrir à Trianon, à Versailles et dans bien d'autres lieux.
Dans votre domaine.
Voilà, mais des arbres extraordinaires qui sont nés dans des terres lointaines et qui aujourd'hui, j'allais dire, s'embellissent sous le soleil parisien.
Alors soyons accueillants aux plantes comme aux hommes. Un petit livre que je vous recommande, Des jardins et des hommes, avec un beau texte de Gilles Clément, Des jardins et des hommes. Donc c'est un petit groupe qui sera présent également dans cette manifestation avec de la musique du pianiste Patrick Scheider. On met beaucoup de musique dans les jardins, puis il y aura des textes lus à Trianon, dans le cadre de la manifestation. Et puis avoir absolument cette magnifique exposition au Jardin d'Orient à l'Institut du Monde Arabe, avec un petit bémol sur le jardin de Pau, là, qui est sur l'esplanade, moi qui m'a un
Pourquoi
peu déçu, que j'ai
Alors,
trouvé raide.
Ben non, mais...
Je préfère aller à Bagatelle pour voir les roses, plutôt que de voir des roses en Pau. Voilà.
Moi, je l'ai trouvé magnifique.
Oui.
Magnifique.
Nos auditeurs,
non, je peux défendre peut-être un peu le bébé. C'est
nos
un jardin.
Jugeront.
Bon. Écoutez, absolument. Mais...
Et puis, bon, beaucoup d'autres manifestations autour des jardins. J'ai pas le temps de vous dire tout. Il y a évidemment le classique et magnifique festival des jardins de Chaumont. Et puis, Royaumont s'y met aussi. Et puis, toujours dans les Yvelines, eh bien, 2500 espèces d'arbres du monde entier à l'arboretum de Chèvreloup, etc., etc. Vous regardez ça sur notre site franceculture.com à la page Tout un monde. Thank you. Tout un monde, le magazine des cultures et aujourd'hui des verdures. À la prise de son, Alain Joubert, à la réalisation, Vanessa Nadjar. Tout un monde, c'est chaque samedi avec la collaboration de Claude Armand de Castillo, une émission proposée par Marie-Hélène Fraissé. Sur France Culture, où vous avez rendez-vous avec Vincent Charpentier, non pas dans un jardin, mais dans un salon cette fois.